Bonjour, Jean-Claude Issali pour la Ligue pour la protection des oiseaux de l'Aveyron. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission qui sera consacrée aujourd'hui à la migration des oiseaux. De tout temps, on a été intrigué par la migration des oiseaux et chez nous, c'est vrai qu'on est quand même très attentif à l'arrivée de la première hirondelle ou au rassemblement des hirondelles à l'automne avant qu'elle s'en aille. Et on a une certaine admiration pour ces oiseaux qui sont capables d'effectuer de très très longues périples. Donc la migration, c'est un cycle annuel qui se répète de manière globalement semblable. Chaque automne, les oiseaux migrateurs quittent leur territoire de reproduction. Alors à des dates à peu près identiques, il peut y avoir des petites variations. Il y a une sorte d'horloge interne liée au rapport des durées du jour et de la nuit, ce qu'on appelle le photopériodisme ou la photopériode, qui déclenche le départ des oiseaux. Les conditions atmosphériques, elles jouent. Elles font que retarder ou accélérer un petit peu le processus. On distingue deux migrations. La migration de retour vers les lieux de nidification, c'est la migration de printemps, la migration prénuptiale ou la migration montante. Chacun utilise le terme qui lui convient. En fait, les oiseaux, je dirais, ils peuvent déjà commencer à monter au milieu de l'hiver. C'est le cas pour les canards. Et les plus tardifs, eh bien, c'est plutôt au début de l'été, comme les épiolaïs, les pigrièches. Donc les oiseaux remontent vers le nord pour nicher, donc la migration de printemps, ou migration prénuptiale, donc avant qu'ils se reproduisent. Et on a la migration qui fait suite à la reproduction, donc post-nuptiale, ou migration d'automne, ou descendante, donc où les oiseaux descendent du nord vers le sud, qui peut débuter dès le début de l'été. C'est le cas chez nous pour le martinet noir, le milan noir, qui dès la dernière décade de juillet commence à nous quitter. Ces migrations, elles peuvent s'achever en hiver, notamment avec les oiseaux marins, mais aussi par exemple avec les grues cendrées qu'on voit passer nous en fin novembre, début décembre. Donc c'est la descente vers le sud. Globalement, la migration de printemps est beaucoup plus rapide et directe. Il faut dire que les oiseaux, ils veulent se reproduire et le temps, il est compté pour les mâles. Il faut qu'ils regagnent au plus vite leur territoire de reproduction afin d'occuper les meilleurs sites et d'attirer les femelles les plus attractives. Donc le temps est compté, donc il faut qu'ils fassent vite. Les différentes espèces ont des calendriers migratoires un petit peu différents. Et il y a même des différences au sein d'une même espèce. En effet, au niveau, les populations sont réparties plus ou moins vers le nord. Si on prend le cas de l'oie cendrée, qui peut nicher dans le nord de la France, mais qui peut aussi nicher dans le nord de la Scandinavie. Les oiseaux qui nichent dans le nord de la France, ils vont entamer leur descente, par exemple, beaucoup plus tard que les oiseaux qui nichent au nord de la Finlande ou de la Norvège. Parce que ceux-là, ils vont rencontrer des conditions climatiques un peu plus délicates, un peu plus froides, ils vont peut-être manquer de nourriture un peu plus tôt. Donc voilà, les contraintes climatiques expliquent assez facilement les différences de date, donc selon les espèces. L'âge aussi peut jouer. À l'automne, les adultes partent généralement en migration avant les juvéniles. Et puis le sexe peut jouer, effectivement, au printemps. Les mâles reviennent plus tôt. On le constate facilement pour les hirondelles rustiques, les hirondelles qui nichent dans nos étables. Elles reviennent avant les femelles, puisqu'on peut les différencier. Elles ont les filets, les mâles ont les filets de la queue, les plumes externes de la queue, qui sont beaucoup plus longues que celles des femelles. Et donc on peut se rendre compte que les mâles arrivent 3, 4, 5 jours, une semaine avant les femelles. Donc le mâle, c'est vrai aussi, quand il revient plus tôt, il se charge de trouver un territoire, il se charge de trouver une zone qui sera plus attractive pour la femelle. et qui sera peut-être plus favorable à la réussite de la reproduction. Mais les oiseaux, pour migrer, ben, ils ont besoin de carburant, ils ont besoin d'énergie. Et en fait, ce sont les nécessités énergétiques qui déterminent tout. Quand partir, quand on déclenche le départ pour la migration, comment on fait pour faire le plein de réserves, comment on peut stocker de la graisse sans trop s'alourdir, mais en ayant quand même un bon réservoir. Est-ce que les oiseaux emploient le vol battu ou le vol plané? Est-ce qu'ils partent seuls ou est-ce qu'ils partent en groupe? Est-ce qu'ils vont voler haut ou voler bas? Est-ce qu'ils vont voler de jour ou voler de nuit? Est-ce qu'ils vont utiliser le vent ou pas? Et puis, autre chose aussi, il faut qu'ils aient un plumage, qui fonctionne bien, en bonne santé. Donc, il y a aussi la mue. Quand est-ce qu'il vaut mieux qu'ils muent, donc quand est-ce qu'ils changent leur plume pour mieux pouvoir migrer. Pour se préparer au départ, les oiseaux ont donc besoin d'énergie. Donc ils doivent faire des réserves. Ces réserves, le plus souvent, ils le stockent sous forme de graisse sous la peau, dont les graisses sont des lipides. Et ces lipides vont être mobilisés pour voler après, pour faire fonctionner les muscles. Mais les muscles aussi peuvent stocker plus de protéines et plus d'eau. Donc la masse musculaire se densifie et s'épaissit. Chez certaines espèces, le poids du corps double avant la première étape de migration. Bon, c'est le cas chez les canards. Mais c'est aussi le cas chez un petit oiseau qui passe chez nous, mais qui est très discret, qui est le phragmite des joncs, qui est un genre de fauvette aquatique. Lui, il peut passer d'une masse habituelle de 11 à 13 grammes à une masse de 22-24 grammes. Mais bon, les oiseaux, ils doivent retrouver un équilibre, parce que s'ils sont trop engraissés, ça va les handicaper, parce qu'il faut aussi le transporter. Donc il faut qu'ils trouvent un bon équilibre entre la quantité d'énergie qu'ils vont stocker et je dirais leur efficacité en vol, quoi. Le coût énergétique est minimisé si le trajet est divisé en plusieurs courtes étapes. Chaque étape sert à recréer de petites réserves de graisse. Donc c'est par étapes qu'ils peuvent aussi reconstituer l'énergie qu'il leur faut pour chacune de ces étapes-là. De nombreux équilibres existent aussi entre la taille d'une espèce et son mode de locomotion. À type de vol identique, un oiseau de grande taille consomme beaucoup plus d'énergie qu'un oiseau de petite taille. De plus, le temps disponible pour effectuer la migration diminue à mesure que la taille augmente. Pour parler très simplement, de manière générale, les espèces les plus grosses ont une période de reproduction, donc l'incubation, l'élevage des jeunes, etc., qui est beaucoup plus longue, et une période de mue aussi, le changement des plumes, qui est beaucoup plus longue. Du coup, il leur reste moins de temps pour migrer. On prend l'exemple des cygnes. Parmi les trois espèces de cygnes qui sont présentes en France, c'est la plus petite, le cygne de Bewick, qui effectue la migration la plus longue. Et c'est la plus grosse espèce, le cygne tuberculé, qui effectue la migration la plus courte. Effectivement, s'ils commencent à nicher plus tôt et s'ils peuvent partir que très tard, une fois qu'ils ont bien élevé leur oisillon, il leur reste moins de temps pour migrer. La taille est en partie compensée par les ailes qui sont plus longues chez la plupart des espèces. À type de vol identique, un oiseau de grande taille consomme beaucoup plus d'énergie, donc c'est ce que je vous le disais. C'est pour ça aussi que s'ils ont des ailes plus grandes, ils vont dépenser un petit peu moins. Alors, la meilleure stratégie énergétique retenue par l'évolution, c'est l'emploi du vol plané, c'est-à-dire un vol sans battement d'ailes. En effet, en vol battu, la vitesse générale pour effectuer une migration décroît lorsque la taille de l'organisme augmente, en raison du coût énergétique. Par contre, en vol plané, la vitesse de migration augmente avec la taille de l'organisme. Donc plus les oiseaux sont grands, plus en vol plané, ils vont aller vite. Et le coût énergétique est beaucoup plus faible que pour un vol battu. Pour s'économiser, les oiseaux aussi sont capables d'utiliser le vent et de l'utiliser à bon escient. On connaît assez bien la stratégie d'utilisation des vents par la majorité des gros oiseaux. Ainsi, les planeurs, les rapaces, les cigognes, utilisent les courants d'air chaud ascendant pour s'élever sans effort. Donc, ils tournent dans ce qu'on appelle une pompe, c'est-à-dire un courant d'air chaud qui monte. Et ils montent très très haut, et puis après, ils se laissent glisser jusqu'à ce qu'ils aient trouvé une nouvelle convection thermique, une nouvelle pompe, et ainsi de suite. Les grands oiseaux de mer, eux, j'ai eu la chance de l'observer, ils vont avancer en utilisant les vents déviés à la verticale des crêtes des vagues. Donc on le voit très très bien, ils volent relativement bas au-dessus de l'eau et le vent qui bute sur les vagues donc s'élève verticalement et les oiseaux utilisent cet air qui monte pour s'embattre des ailes, reprendre de la hauteur et ils reglissent dans le creux des vagues et ils remontent ainsi donc sans qu'il soit nécessaire d'effectuer un battement d'ailes. Donc c'est vraiment une utilisation très 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 intéressante. Tire-d'aile, l'émission de la Ligue pour la protection des oiseaux de l'Aveyron. Émission aujourd'hui consacrée à la migration des oiseaux. Donc je parlais des effets du vent sur la migration. La situation elle est un peu plus complexe pour les petits oiseaux. Les études radar ont confirmé que les passereaux migraient avec une plus forte intensité en présence d'un vent arrière. Du coup, il est facile de comprendre qu'un passereau qui va doubler sa vitesse par vent arrière préfère attendre plusieurs jours les conditions favorables pour reprendre la migration. Et donc faire des haltes, quoi, et attendre que le vent soit vraiment favorable pour repartir. Par vent arrière, les migrateurs ont tendance à voler beaucoup plus haut. Ils sélectionnent des altitudes élevées où le vent est plus fort. Donc ils ont des capacités à détecter effectivement et à trouver ces courants aériens beaucoup plus favorables. Bon, le problème, c'est que quand ils volent très haut, ben pour nous, les ornithologues, ils sont beaucoup plus difficiles à déceler et à voir. Par contre, quand ils n'ont pas vraiment de conditions favorables, et, bon, ils peuvent attendre quelques jours, mais si ces conditions favorables ne viennent pas, ils peuvent avoir des vents contraires ou des vents latéraux. Et pour limiter la perte d'énergie et la perte de temps, ben à ce moment-là, les migrateurs ils ont tendance à suivre les côtes maritimes, et ou à voler à plus basse altitude. Donc, ce qui, pour nous, quand ils sont à plus basse altitude, ben, ça nous permet de les suivre plus facilement pour effectuer les suivis de migration. Donc, ils peuvent sélectionner l'altitude de vol qui est la plus favorable pour eux. On a noté une trentaine de cygnes chanteurs qui ont été suivis au radar à partir de l'Écosse, et qui ont gagné l'Islande à une vitesse moyenne de 180 km/h. Ils volaient au cœur d'un courant aérien qu'on appelle le jet stream, à plus de 8000 mètres d'altitude. Donc là, effectivement, si on n'a pas des radars, on ne peut pas savoir, on ne peut pas les trouver. Mais le problème du vent, c'est que aussi, il peut entraîner des erreurs de navigation. Les études radar ont confirmé ce fait. Les déviations de trajectoire s'expliquent par la présence de vent plus que par des imprécisions ou un dysfonctionnement des compas internes qui permettent aux oiseaux de se diriger. Et plus l'oiseau est petit, plus il est susceptible d'être déporté par le vent. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut trouver des espèces nord-américaines dans Bretagne ou des espèces des fois qui sont des espèces marines qu'on retrouve en plein cœur du Massif central qui ont été prises par des vents tempétueux. En plus, la plupart des oiseaux ne corrigent pas leur direction et conservent le même axe. Ce qui explique que des milliers de migrateurs peuvent mourir aussi en mer hein, quand ils sont entraînés et qui quittent donc le sol, quoi, qu'ils ne volent plus au-dessus de la terre. Et là aussi, il semble que ce soit les jeunes oiseaux qui sont plus sensibles que les adultes. Les adultes, ils ont dû accumuler aussi une expérience. À vent égal, à vitesse de vent égal, la déportation des oiseaux est plus forte à l'automne qu'au printemps. Ou enfin, en tout cas, entraîne plus de conséquences néfastes. Parce que à l'automne, il y a beaucoup plus de juvéniles qui volent, d'oiseaux qui sont moins expérimentés qu'au printemps. Pour les oiseaux qui peuvent suivre les côtes, les risques d'erreurs de navigation induites par le vent sont réduits. Effectivement, en suivant la côte à vue, ils ne perdent pas. Ils ne se perdent pas. Alors, il semble aussi également que si les oiseaux n'ajustent pas leur trajectoire sur le moment, cette déportation elle est compensée plus tard, à mesure qu'approche la destination finale. Donc, plutôt que de corriger petit à petit, ce qui leur demanderait beaucoup plus d'énergie, et ils corrigent plutôt vers la fin. Mais ça aussi, c'est l'expérience de la migration qui le guide. Beaucoup de migrateurs utilisent aussi les vents arrière, même lorsque ceux-là ne sont pas exactement orientés dans la bonne direction. Et ils préfèrent profiter du vent qui va globalement les rapprocher quand même de leur lieu de destination, plutôt que de corriger finement, régulièrement. La perte d'énergie est donc plus faible, qui s'y compensait en permanence. Alors, à quelle altitude voler ? En fait, l'altitude, elle est déterminée par quatre facteurs, enfin, principalement par quatre facteurs. Bien sûr, le vent, la direction et la force du vent est variable selon l'altitude, donc l'oiseau peut choisir un petit peu donc, celui qui lui convient le mieux. La température, l'altitude réduit les risques d'hyperthermie, parce qu'effectivement, les oiseaux en migration, notamment ceux qui font du vol battu, ils se fatiguent beaucoup plus et du coup ils peuvent monter en température. Donc s'ils montent en altitude, les températures sont plus fraîches et pour eux c'est plus agréable. Et puis la déshydratation. En fait, plus on monte en altitude, plus la déshydratation est faible. Donc quand on parle de l'altitude, du coup les oiseaux vont moins se déshydrater. Et puis après, il y a un autre facteur qui joue, c'est que bon, pour prendre de l'altitude, il faut qu'il consomme de l'énergie. Donc si l'effort pour prendre de l'altitude est très, très, très fort, très élevé, et pour qu'ils arrivent à s'y maintenir aussi, si les conditions ne sont pas favorables, du coup, ils peuvent ne pas prendre l'altitude qui leur convient si c'est trop gourmand, quoi. Le record d'altitude en vol est actuellement détenu par un vautour de Ruppel, qui est un vautour africain qui vient un petit peu en Europe maintenant, hein, avec le réchauffement climatique, il est assez courant de l'observer en Espagne. Et donc un vautour de Ruppel a percuté un avion à 11 300 mètres d'altitude, ça c'était au-dessus de la Côte d'Ivoire. Puis ce qui est très connu aussi, c'est la migration des oies à tête barrée, donc ce sont des oies qui sont dans le nord, en Chine en gros, même en Russie, et qui migrent, et qui passent au-dessus de l'Himalaya, et qui passe pas au ras des sommets, là, elle passe des fois à plus de 10 000 mètres d'altitude. En Europe, il y a des signes qui ont été signalés à 8 000 mètres d'altitude, voire même un petit peu plus haut. En fait, les oiseaux, ils ont des adaptations physiologiques assez intéressantes. Là, dans ce cas, c'est l'hémoglobine du sang qui s'adapte et qui permet à ce genre d'espèce de supporter des altitudes très très élevées. Les études des radars en Suisse et en Allemagne ont montré qu'entre 90 et 95% des passereaux et des limicoles, les limicoles c'est les petits échassiers, migraient à moins de 2000 mètres. Donc on voit que la plupart quand même des oiseaux migrent à des altitudes beaucoup plus faibles. Dans les règles générales, les migrateurs nocturnes, ça aussi on parlera, il y a des oiseaux qui migrent la nuit, les migrateurs nocturnes migrent plus haut que les migrateurs diurnes, que ceux qui volent le jour. En automne, l'altitude est inférieure à celle du printemps sur un même site. Bon, ça on le détecte avec des radars. De jour, les oiseaux à vol battu migrent à plus basse altitude que les oiseaux à vol plané. Il semble que les migrateurs les plus rapides fréquentent des altitudes plus élevées que les oiseaux plus lents. Par vent de face, bon, les oiseaux volent à plus faible altitude, hein, c'est sûr, quand les vagues sont défavorables, il vaut mieux voler beaucoup plus bas et profiter du relief pour s'abriter. Voilà, l'altitude est aussi beaucoup plus élevée lorsqu'ils traversent des océans ou même des déserts. Par rapport au sol, les oiseaux migrent plus haut en plaine que sur les massifs montagneux. On le voit quand on observe les migrations. D'ailleurs, les sites pour observer les migrations, ben, ils sont dans les Pyrénées, ils sont dans les massifs centrales. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui passent au ras des sommets, ils passent même sur les cols. Des fois, même quand les conditions sont défavorables, ils volent au ras du sol sur les cols. Voilà, vous voyez que c'est très très riche. La migration, il y a énormément de choses à dire. Du coup, je pense qu'on va y revenir sur une prochaine émission. Voilà, donc je vous propose donc de nous retrouver dans 15 jours pour continuer de parler de la migration et traiter des oiseaux, les plus communs chez nous que l'on peut voir en étape migratoire ou de ceux qui sont quand même des migrateurs bien, bien avertis et bien connus. Donc, bonne continuation et donc à très vite.
CFM. CFM Villefranche.